s'il y a des questions ou après, je ne sais pas.
Comme vous voulez, s'il y a des questions maintenant, vous pouvez les poser en public ou venir voir Audrey pour suivre le débat si tu veux.
Vous allez me montrer.
Oui, après je reviens. Vous l'avez jamais vu,
Si, moi,
la première fois que j'ai vu un berger, c'était dans la crèche de mes parents.
Voilà, la photo d'eau.
Elle est trop grande pour moi. Hein. C'est pas la mienne. Alors, un berger, c'est comme ça. Ça, c'est un crochet pour attraper. On attrape comme ça les pattes. Sinon, dans les représentations, c'est une houlette, c'est une cuillère avec laquelle, je crois, on jetait un peu de terre pour pour éloigner les brebis. Donc, c'est un crochet qu'on trouve sur les foires, de même que les capes. C'est une toile épaisse double avec, ça c'est de la laine de brebis, quoi. En Portugal, vous pouvez trouver cette très très bonne qualité de tissage sur des métiers manuels, dans la vallée d'Estrela.
Et ça, vous l'avez trouvé en France, ce manteau ?
Oui, c'est en France.
Ça s'achète.
Ça s'achète sur les rares dernières fois. Alors, l'avantage en dry, c'est que vous pouvez dormir dedans.
Ah, voilà. Ça fait combien de toiles de tarte ?
Et ça marche beaucoup mieux qu'un duvet, c'est beaucoup plus efficace. C'est imperméable et on transpire beaucoup moins que dans la laine polaire de Décathlon.
Après, ça, publicité.
Ça quand même. Ça se plie d'une certaine façon aussi, pas n'importe comment. Et c'est très précieux.
Ah oui, c'est lourd. C'est lourd.
Un jour, c'était au début d'une dry. Bah, Bernard s'en souvient, il était là. Il y avait un berger qui participait à l'installation d'un plus jeune. Et ce vieux monsieur s'appelait Ruben Amat. Et lui, il avait été mis vers l'âge de 5 ans, il avait été placé dans une ferme. Ça, c'est la génération des bergers, bébé lune, un peu niaille, qui n'a pas aidé à l'image du berger. Mais c'est un monsieur très gentil, qui avait pâté toute sa vie, qui avait comme pour seule famille le troupeau. Et ce monsieur avait une cape de couleur verte. Je crois qu'elle était verte. Et il m'avait dit, mais tu n'as pas de cape, il faut mettre cette cape. Alors, c'était la veille du départ en drague. Le lendemain, il allait pleuvoir. Alors, il m'avait mis la cape comme ça. Il m'avait dit, mais il faut l'accrocher. Alors, il avait bataillé. Il avait accroché comme ça. Hop. Puis, il m'avait dit, tu vois, ça, c'est la cape d'un ami. Il gardait son troupeau au bord de la route. Il y avait du brouillard. Et paf, il a été truqué par une voiture. On l'a retrouvé dans sa cape. Alors, moi, j'ai récupéré la cape. Me voilà avec la cape du mort. Je commence à batailler avec le crochet que j'arrivais plus à relever. Tout ça, c'est pour vous faire sourire. Mais... Donc, ce sont des attributs de cartes postales, de crèches, mais qui ont un sens formidable. On a dans le même genre le fouet. Le mien n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le manche est faux. C'est le manche qu'on achète à la fête de l'Espérou. C'est le grand maître sonnaillé, Monsieur Cabiron, qui a pris la succession de Monsieur Servel, qui est du côté de Raphaël. Parce qu'il faut dire que les sonnailliers en Languedoc, il n'y en a plus. Les cloches viennent d'Espagne et le matériel vient un peu de partout. Donc ce Monsieur Cabiron a eu la bonne idée de faire des manches de fouet qui ressemblent un peu à ceux des manches Cévenol. Normalement, le manche Cévenol, à la base, il y a une boule. Voilà. Qui vient d'un nœud qui est à la base du tronc, entre le tronc et une branche, on coupe à ce niveau-là, et donc ça fait une boule qu'on peut pointer de clous avec lequel on marche. Donc le fouet Cévenol, c'est un outil, hein, on peut s'en servir pour faire du bruit. Celui-là, on fait guère, mais les fouets de Provence sont plus courts, avec une longe plus longue, et au bout de la courroie, on met une chasse, on fait un trou, et on met une corde en fil de lin ou en fil plastique, et c'est ça qui va faire craquer le fouet. Et avant, sur les foires d'Arles, les bergers étaient recrutés à la voix. Il y avait des concours de voix pour savoir appeler. Alors là-bas, l'appel, c'est « veille, si viennent, viennent ». Ici, le « ils ne le font pas. Ils font « le truc, je n'arrive pas à faire, j'avoue, sèche. C'est une consonne occlusive, c'est «
je vais ici ».
Les bergers.
Donc ils étaient loués par les grands patrons de crocs à la voix et au claquement de fouet. Et même du côté de Sorède, vers Perpignan et tout ça, il y avait des concours de fouet qu'il fallait faire claquer plus fort qu'un fusil.
Ah.
Donc les bergers étaient engagés comme ça. Voilà, ça c'est pour l'histoire du fouet. Ici le fouet c'est une canne pour la pente, on peut s'appuyer dessus aussi.
C'est un berger, lui. Hein.
Voilà, mais il le sait alors.
Et
voilà, ça, voilà pour les quelques attributs. Pour finir, vous avez sans doute vu dans certains films ou documentaires ou même sur la route des troupeaux avec ce type de collier autour du cou. Un plus gros, hein, bien sûr, ça c'est un agrément pour la voiture. C'est un collier en lyre qu'on fabrique en Provence, en giblant une planche de bois contre la cuisse et qu'on va recourber aux deux extrémités. Et au milieu, il y a une partie en cuir à laquelle est fixée la cloche. En Cévennes, les colliers, c'est pas comme ça. C'est toujours une planche de bois. C'est du micro-collier en général qu'on va couper. Enfin, les arbres sont choisis, sélectionnés. Les planches sont soit découpées soi-même, soit chez des charpentiers qui veulent bien le faire. Ensuite, on le replie et ça donne une taille de cou. On fait différentes mesures pour passer ici ce qu'on appelle la bûche, qui est une petite baguette qui peut être en genêt, enfin en bois assez fibreux, qui va fermer le bouton et le collier va pendre autour du cou. Donc ce sont des formes oblongues. On a la partie, je montre à l'envers, la partie haute du cou et la partie basse, et qui vont s'adapter à chaque taille et à chaque animal. On va changer de collier un animal qui grandit, et les moutons meneurs, les mâles castrés dont je vous parlais, souvent ils ont leur collier. Ils ont leur collier à l'année, et ils ont leur collier de drail. Et donc quand un mouton meurt, ben, il reste le collier de Banard, de Noireau, de... C'est aussi une histoire d'attachement.
Il n'y a pas de problème avec la superficie en fonction du nombre de bêtes actuellement.
Oui, alors la superficie en fonction du nombre de bêtes. Ça, c'est la PAC. Vous savez que pour éviter le surpâturage et l'érosion des sols, les politiques de l'État et les normes techniciennes, hein, tout simplement, obligent à avoir un certain chargement d'animaux selon le pâturage. Alors, il y a les UGB, unités de gros bovins, unités petits bovins. Donc, on doit mettre un certain nombre de brebis, ou de vaches, ou de chevaux, c'est pareil, sur une quantité d'hectares variable. Alors, selon ce que la politique agricole commune décide, on a le droit de mettre tant d'animaux ou pas. Si, comme ça s'est produit, on a cru qu'il allait falloir avoir beaucoup plus de bêtes que ce qu'on en avait, les éleveurs se sont grattés la tête en disant « Ben moi, il faut que je trouve 300 brebis tout de suite. Parce que j'ai trop de terre et pas assez d'animaux. » Ce sont des décisions qui sont prises... quand on le voit depuis ici, on peut dire qu'elles sont prises à l'emporte-pièce. Bien sûr, elles sont raisonnées, il y a des statistiques derrière et tout. On sait bien que c'est pas fait n'importe comment. Mais depuis ici... On peut dire qu'elles sont prises à l'emporte-pièce parce que l'herbe n'est pas la même partout. Ici, ce n'est pas les prés de la Beauce ou de la Bourgogne, ce n'est pas non plus la Normandie. Le climat est beaucoup plus instable et la terre est beaucoup plus difficile à gérer. Et les sols sont beaucoup plus arides. Ou alors, il y a une inondation et là, ça enlève tout. Donc, le nombre de brebis à l'hectare, c'est une norme qui est imposée, qu'il faut respecter. Voilà.
Elle est combien ?
Ça a changé trois fois ces derniers mois. Je suis perdue, c'est la même qu'avant.
C'est en fonction des secteurs aussi.
En fonction des secteurs, ça change. Parce que si vous êtes en zone de montagne, si vous êtes en zone de piémont, ça change, c'est très compliqué tout ça. C'est évalué. On ne peut rien dire, qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut rien dire. Ce que je peux vous dire, c'est que à la brebis, il y a quand même beaucoup d'hectares. En garrigue, par exemple. Nous, on on a pâturé sur 200 hectares avec 400 poules. Et on a tout rasé.
Je crois qu'il y a des loups de terre aussi, non? Pour exploiter. Il y a le contraire aussi.
Oui.
J'ai entendu parler de ça.
Oui, tout existe. Tout existe, oui.
Gros problème.